Je veux chanter un chant d'amour pour toi, Jésus, pour mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour, tout contre toi, près de ton cœur, dans tes bras d'amour. Amen. J'avais envie de vous partager parce que je crois que parfois on a juste besoin de savoir que Dieu nous aime et qu'il nous prend dans ses bras d'amour. Et c'est vrai qu'un jour, Dieu est venu à nous, il nous a pris dans ses bras d'amour et il nous a mis à un niveau, on peut dire, où on peut marcher la tête haute et on est reconnaissant pour cela. Je laisse Audrey partager son témoignage, comment elle a rencontré son papa d'amour, du coup.
Mais juste, je veux vous remercier quand même pour ce que vous avez partagé. Pour nous, Stanley l'a dit, c'est important de se sentir en famille. Et Dieu est le Dieu de la famille, vraiment. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pas que de Abraham, pas que de... Enfin, voilà. Et voilà, et pour nous, c'est vraiment important de vivre les choses en famille. Et ben, merci. Du coup, quand les enfants sont pas mis à l'écart, ou enfin, voilà, c'est encourageant pour nous, en tout cas, cette approche-là. Alors, moi, donc, je m'appelle Audrey. J'ai rencontré le Seigneur, j'avais 21 ans, c'était il y a une petite quinzaine d'années déjà. Ma famille est pas du tout n'était pas chrétienne. À la suite de ma conversion, il y a ma grand-mère maternelle puis ma maman qui se sont converties aussi. Mais je connaissais pas du tout le Seigneur, l'Église, la Bible, toutes ces choses. J'ai lu un évangile quand j'avais 15 ans. En seconde, c'est la prof d'histoire-géographie qui nous a demandé de lire un évangile pour introduire le chapitre sur le christianisme. Improbable, elle était athée, communiste. Elle nous a fait toute la critique possible des évangiles qui se contredisent, nanana. Mais en fait, moi, cette année-là, je me suis dit, ah, je sais pas qui c'est ce Jésus. Je sais juste qu'il a marché sur l'eau et qu'il a fini sur une croix. Mais du coup, comment mieux savoir que dans la Bible qui il est ? Et ce que j'ai lu, je l'ai pris pour vrai. J'ai pas tout compris, mais quand même, ça a déposé quelque chose en moi. Je l'ai trouvé beau, cet homme, quand même. Et puis, cette année-là aussi, comme par hasard, le Seigneur préparait déjà les choses. Il y avait une amie dans ma classe. Ses parents étaient chrétiens. Elle ne l'était pas encore, mais ses parents l'étaient. Et en fait, comme on était bonnes copines, on allait des fois chez l'une, chez l'autre, j'ai rencontré ses parents, j'ai pu échanger avec eux, et ils ont prié pour moi. Beaucoup. moi, j'étais contente de ce que j'avais découvert. Je suis allée à l'église deux ou trois fois avec eux, et alors là, waouh, l'amour de Dieu dans l'église, j'étais saisie, c'est quelque chose que j'avais jamais vu ailleurs, que j'avais jamais connu. Et que j'ai trouvé très beau. J'ai jamais remis en doute ça. Dieu était au milieu des chrétiens, ça c'est sûr. Mais pour moi, il y avait les chrétiens et les autres, et puis moi, j'étais des autres. Donc, j'ai continué à essayer de construire ma petite vie, tant bien que mal, et plutôt mal d'ailleurs. J'étais très très angoissée, très. En fait, je comprenais pas vraiment le sens de la vie. Mes parents, ça allait pas trop entre eux. Ils avaient les deux beaucoup de problèmes de santé, et en fait, moi, je me disais. À l'adolescence, c'est pas évident quand même de voilà, on a besoin de repères et c'était la période où mes parents ça allait pas trop. Du coup, moi non plus, parce que je me disais tout ce qu'on peut essayer de construire, c'est dur de construire et en plus tout peut s'effondrer comme un château de cartes du jour au lendemain. Du coup, franchement, moi me dépatouiller pour savoir projet professionnel, vie de couple, machin, je me sentais complètement perdue là-dedans. Et puis, 6 ans plus tard. cette amie avec qui je reste en contact et qui est un peu mon amie de bêtises, hein. On fait nos soirées ensemble. Quand je fume, je lui passe mes cigarettes. Quand elle boit, elle me file son verre avec de l'alcool. Voilà, on s'entraîne vraiment dans des mauvaises choses. Donc dans cette vie antérieure, parce que ça a changé, merci Seigneur. donc cette amie avec qui c'est donc avec ses parents c'est compliqué puisque ses parents sont chrétiens et donc ils voient leur fille dans cet état-là, ils voient que ça va pas du tout. Ils lui proposent un jour de faire un camp de ski avec avec les jeunes de l'église. Et l'ami se dit, ça va détendre un peu mes parents, et puis moi je vais faire du ski, je vais bien m'amuser pendant un week-end, donc ok. Et en fait, elle ne m'a rien dit de ce qu'elle a vécu à ce week-end-là, mais quand elle est revenue, c'était plus la même. Elle était belle, elle était libre. Et pourtant, alors elle venait quand même aux soirées avec le groupe d'amis, mais par contre elle buvait plus d'alcool. Alors excusez-moi, je vais parler un peu cru, mais elle ne couchait plus avec son copain. Elle voulait plus de mes clopes. Et en même temps, waouh, elle vivait tout ce que j'aspirais à vivre. Et en fait, juste de la voir vivre ça, ça m'a rappelé ce que j'avais lu dans la Bible. Et je me suis dit, ah, peut-être que Jésus peut quelque chose pour moi alors. Et je me suis mise à relire l'Évangile. Je l'ai repris du début. Sauf que cette fois, j'avais compris que j'avais besoin de lui. Donc je l'ai lu différemment. Et là, par contre, j'ai commencé à aller à l'église avec elle, et du coup, j'étais très très touchée par les cantiques. Et là, par contre, j'écoutais vraiment la prédication parce que j'essayais de comprendre ce que je lisais, jusqu'à ce que finalement, je comprenne en fait, que c'était à cause du péché que j'étais malheureuse, et pas que le péché des autres, mon péché, parce que moi aussi, c'était ma nature en fait, le péché. Et en fait, ce qui m'a marqué le moment de ma nouvelle naissance, en fait, c'est quand je suis arrivée à la fin de l'Évangile. Pour moi, la fin, c'était la croix, c'était la mort de Jésus. Après la mort, il n'y a plus rien normalement dans mon esprit. Sauf que non, j'arrive à la croix et je vois qu'il reste encore des pages. Je me dis comment ça ? Je me rappelais pas qu'il y avait encore quelque chose après. Mais oui, en fait, il y avait la résurrection. Jésus est vivant. Et s'il est vivant, ça change tout pour moi. Parce que ça veut dire que oui, il peut aussi changer ma vie. Et là, je me suis ouverte et je suis née de nouveau et j'ai été baptisée dans le Saint-Esprit aussitôt, en plein culte, quand j'ai réalisé ça. Et depuis, bien sûr que tout a changé, hein. Tout a changé. On méditait cette semaine sur l'espérance. Il y a une grande espérance en Jésus. C'est pas une petite espérance. Alors merci Seigneur pour toutes les choses de la terre, merci pour tout ce qui nous fait traverser. Mais on l'a chanté, oui, béni soit ton nom. Mais qu'importe ce que je traverse, en fait, je suis dans sa main, à lui. Ça, il y a personne qui peut m'en arracher. Et alors on est bien imparfait, hein. Sur le chemin va sans peur. Si tu tombes en chemin, mais on est tous tombés, je sais pas combien de fois. Mais par contre, le Seigneur, il nous relève et ce qu'il a commencé, il achèvera parfaitement. Et bon, voilà, pour ce qui est de ma rencontre avec le Seigneur, après, il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à raconter encore. Mais c'est peut-être déjà pas mal. C'est la fin, je pense.
Oui. Du coup, j'ai partagé mon témoignage, qui est un petit peu différent.
De Audrey.
Quand même. Moi, comme vous voyez, je suis alsacien. Ouais, ça se voit. Non, je suis pas d'ici. Je suis arrivé en France en 2004. Je suis d'Haïti. Mes parents aussi sont de là-bas aussi. Moi, je connaissais le Seigneur parce que mon grand-père était pasteur en Haïti et il avait beaucoup à cœur la France. Du coup, il venait de temps en temps en mission en France. Et du coup, j'ai baigné dedans. Tout ce qui est la parole, mais j'avais pas rencontré le Seigneur, c'est-à-dire que j'aimais mais sans plus, c'est-à-dire que je vivais ma vie simplement, mais une réelle rencontre ne s'était pas faite. Il y a quelque chose de particulier dans mon témoignage, c'est que quand j'ai eu j'avais 7 ans, je me souviens avoir fait cette c'est pas une promesse, mais à demander au Seigneur entre guillemets, parce qu'en fait mes parents, ma mère à la maison, elle était tout le temps là, et en fait j'avais un regard tellement bienveillant de à ma mère, je disais en fait je crois que vaut mieux être une femme qu'un homme, parce qu'une femme a l'air tellement courageuse. Et c'est vrai que vous êtes courageuses les femmes, hein, franchement. Mais je me disais, moi je veux le ressembler. Je veux être comme, en fait, je veux pas être comme ma mère. Je veux être une femme. Alors que j'avais 7 ans, mais innocemment. Mais je me suis rendu compte quand même. Du coup, il y avait un problème d'identité justement. Mais j'avais pas conscience de toute la portée que cela pouvait avoir, parce que dans mon pays, bon, j'entendais pas parler ce qu'on sait aujourd'hui d'homosexualité ou quoi qu'est-ce. C'est pas quelque chose que je connaissais. Mais quand je suis arrivé en France, je vais me prendre comme une claque là, en plein visage, de voir que ça existe. Et je dis, mais oh, il y a des hommes, des femmes qui sont ensemble. Du coup, bah moi aussi je pourrais. Et du coup, ça a été un combat, mais en même temps, j'avais un rêve aussi. Je rêvais d'avoir des enfants, mais du coup c'était incompatible. Vouloir avoir des enfants, fonder une famille et être en lutte avec ça. Mais en même temps, vous imaginez un jeune ado avec tout ce qui se passe à l'école et tout. Mais du coup, il y a l'église, mais il y a ça. Il y a deux choix qui est possible, et du coup je suis perturbé, je sais pas trop comment parler à mes parents, c'est difficile aussi parce que je sais pas comment ils vont le prendre. Je me dis je peux pas en parler à mon pasteur, peut-être qu'il va me rejeter, j'en sais rien, et j'ai personne à qui déverser mon cœur. Et ça a été vraiment une lutte, et un jour, je me souviens, je devais avoir 15 ans je pense. Du coup, je décide d'écrire une lettre à mes parents en leur disant que en gros que je les aime, que j'aime le Seigneur, mais cette vie est trop dure pour moi. Je préfère m'en aller. Au moins, je serai auprès du Seigneur. Mais ça, c'était vraiment penser très mal. Mais comme ça, je m'enlève la vie. Comme ça, je serai auprès du Seigneur et j'aurai pas à souffrir. Et je décide de prendre un petit verre avec de la Javel, et j'ai fait un mélange de Javel et de Doliprane. Et du coup, je prépare mon lit, je fais la lettre, je la dépose, et je pense que mes parents, ils doivent encore avoir ces lettres dans leur affaire, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais et en fait, je me couche et je me dis, je vais le prendre, et quand mes parents vont rentrer, ils vont se rendre compte et tout. Mais en fait, il s'est passé un truc, c'est que je me suis couché, je me suis endormi, je sais pas comment. Et je vais faire une sieste assez longue parce que mes parents vont rentrer le soir, et quand ma mère elle va rentrer, elle va dire en gros je suis là et tout, et là je me réveille, et, mince, j'ai raté mon coup. Et en fait je vais comprendre, et à ce moment-là je vais comprendre que c'est le Seigneur qui m'a sauvé. Et là je malgré ça je m'appuie quand même là-dessus, ce que Dieu m'a sauvé, mais la lutte continue, parce que on peut être délivré comme ça, mais des fois ça peut être long et ça peut être fatigant. Et je savais pas comment dire ça à mes parents, et un jour je fais en sorte que mes parents sachent que je passe par ces moments-là, et ma mère elle va me dire cette phrase qui va me faire du mal, mais aujourd'hui c'est ma maman préférée, je l'aime de tout mon cœur, mais à ce moment-là il y avait plus d'amour. Et elle va me dire cette phrase: qu'est-ce que j'ai fait au mon Dieu pour mériter ça? Et là je vais lui dire: mais moi qu'est-ce que j'ai fait moi pour mériter ça, moi pour avec marcher avec ce lutte, qui m'aide? Et là je me dis: mais en fait mais personne ne m'aime, même pas mes parents, et ils sont là entre guillemets, ils sont là pourquoi? Et je me souviens, le Seigneur va me dire une phrase qui va me toucher, qui va me délivrer complètement. Le Seigneur va me dire: même si tu serais homo, je t'aimerais quand même. Et là, mais vous imaginez pas qu'est-ce que ça me fait dans mon cœur. Je me dis: mais t'es prêt à m'accepter tel que je suis, avec cette salissure? Et je me dis: mais waouh, quel amour! Et c'est cet amour qui libère. Et je crois que nous aussi, on est appelés à manifester cet amour-là envers les autres, afin qu'il soit délivré. Il y a des luttes, il y a des combats, et c'est vrai, à partir de là il y a eu un cheminement où j'ai été délivré, et j'ai dit: Seigneur, ma vie ce sera pour te servir, je veux que ma vie te serve. En fait je dis au Seigneur: mais je n'existe plus, Je suis mort. Je veux que ma vie te serve. Et à ce moment-là, je vais entamer des études bibliques et je vais servir mon prochain à mon travail. Je vais essayer de tout faire. Je suis cuisinier de métier et je travaille dans des hôtels sur Paris et je vais décider dans mes temps libres. Je louais une salle de séminaire et je faisais des rencontres et je me disais mais il faut que je partage l'évangile. Il faut que je dise mais Jésus est vivant. Il m'a sauvé. Il peut vous sauver aussi. Et à partir de ce moment-là, le Seigneur, il va, oui, vraiment, me prendre dans les bras, me donner tout l'amour. Et aujourd'hui, mais je suis tellement heureux de me dire, mais le jeune homme qui aurait pu aujourd'hui être marié avec un homme, mais marié avec la plus merveilleuse des femmes, avoir deux enfants, mais quelle gloire. Et mais moi, pour moi, c'est un miracle. C'est un miracle de me dire aujourd'hui que il a répondu à ma prière, il m'a donné une femme, je rêvais avoir des enfants, j'ai des enfants, et je peux vivre la vie que Dieu veut que nous menions. Une vie en abondance. Et c'est ça que je voulais vous témoigner ce matin. Voilà. Je peux continuer, ok, je vais prendre mes affaires. Est-ce que vous croyez que Jésus est vivant? C'est vrai qu'il est mort, mais il est bien ressuscité. Je voulais juste partager une pensée. Ce n'est pas ma prédication, mais c'est une pensée pour quelqu'un ici. Peut-être qu'il n'est pas là ou mais qui peut être là, mais j'en sais rien. Audrey parlait de l'espérance. Je crois que ce matin, le Seigneur veut dire à quelqu'un. Espère en Dieu seul. Et il y a alors que je préparais ce moment, ce psaume m'est vraiment apparu comme psaume 118 verset 17. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je sais pas ce qui est mort dans vos vies ce matin. Ça peut être aussi, peut-être que vous avez une maladie et vous dites, mais en fait, je vais mourir avec ça. Mais non, le Seigneur déclare, vous mourrez pas. Vous vivrez et vous raconterez les œuvres de l'Éternel. Et je prie aussi, même pour votre assemblée, que la vie de Dieu inonde. Et que vous, je sais pas, dans un an ou deux ans, que vous dites, la salle elle est trop petite. Parce que la vie de Dieu est là. Parce que Dieu est vivant et il est capable de faire des œuvres, mais tellement qui nous dépasse aujourd'hui. Qui nous dépasse. Mais Dieu est là. Et Dieu vous encourage à croire dans ses promesses. À espérer en lui. L'espérance n'est pas quelque chose, parfois quand on pense à l'espérance, on dit, ah, peut-être. Non. L'espérance c'est quelque chose de sûr. C'est comme une encre, c'est planté là et on est sûr et on peut dire, on peut le proclamer, je ne mourrai pas. Situation, je ne mourrai pas. Circonstance, je ne mourrai pas. Parce que la vie de Dieu est en moi. Parce que on est appelé à ce que la vie jaillisse de nous. Parce que nous sommes ses enfants. Et l'Esprit de Dieu habite en chacun d'entre nous. Il habite pas que en votre pasteur, que à ceux qui sont sur la chair. Mais nous, je crois que nous sommes tous à la même enseigne ce matin. Et moi, je prie que la vie de Dieu puisse jaillir et que le monde puisse voir Christ à travers vos vies. Amen. Du coup, on s'est pas présenté quand même, mais moi c'est Stanley, 34 ans. De base, je suis de mon métier, je suis cuisinier. J'ai fait toute ma carrière dans la cuisine. J'ai fait une école hôtelière de CAP jusqu'au BTS parce que j'avais un rêve de devenir. Je voulais être directeur d'hôtel, de restaurant. Après, je voulais aussi créer une chaîne de services de chef à domicile à l'étranger. Précisément à New York, mais le Seigneur en a voulu autrement. Un jour, il va me dire tu veux conquérir le monde par ta cuisine. Moi, je veux que tu conquères le monde à travers ma parole. qui est aussi une nourriture. Du coup, je trouve le jeu de mots avec le Seigneur, mais c'est trop beau. C'est trop beau. Et, du coup, je suis marié depuis 2 ans, 2 enfants, Elijah et Ava. Voilà. Et on a vraiment à cœur de servir le Seigneur en famille, que le Seigneur nous encourage, nous donne les ressources nécessaires pour continuer à le servir jusqu'à ce que il revienne nous chercher. Voilà. Voilà. Je vais prier pour la prédication et après on passera à la prédication. Père Céleste, merci pour ta présence, merci pour ton nom qu'on peut proclamer à chaque instant, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu vivant et vrai. En toi, Seigneur, nous voulons nous appuyer. Nous voulons, Seigneur, regarder à toi seul, Seigneur Jésus, malgré la tempête, malgré les embûches qui sont là, Seigneur Jésus. Mais nous voulons regarder à toi seul et te dire, Seigneur, que notre espérance soit en toi seul, que nous pouvons regarder, même si les circonstances sont difficiles, mais nous voulons regarder qu'à toi seul, Seigneur Jésus. Amen. Le titre de ma pensée et ma prédication de ce matin, c'est « Serviteurs les uns les autres ». Nous allons ouvrir la parole dans Jean 13, versets 1 à 16. Du coup, j'entends pas les feuilles bouger, du coup, je pense que ça va. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit du linge, dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras point part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui le livrait, c'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur a eu lavé les pieds, il prit ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai dit? Vous m'appelez maître et seigneur et vous le dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous sachiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que le maître, que le seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. C'est vrai que ce matin, j'aurais pu arriver avec ma bassine et vous laver les pieds. Je sais pas si tout le monde aurait accepté, mais en préparant ce message, ça m'a rappelé quelque chose. Mon grand-père, il faisait ça dans son église. Une fois par mois, il lavait les pieds de ses disciples. Moi, en tant petit, ça me marquait. Je me dis, mais franchement, quand même, c'est quand même le pasteur, quoi. Et là, je voyais tous les fidèles qui passaient et on leur lavait les pieds. Et je trouvais ça beau. Je trouvais que c'était un symbolique. Et en lisant ça, ça m'a rappelé ce petit passage de mon enfance. Je crois que ce matin, Dieu désire que chacun d'entre nous, on sert l'Église. Et c'est vrai, souvent, quand on pense au service, on pense souvent au pasteur, on pense souvent au chantre, on pense souvent à celui qui a la sono. Mais comme on l'a rappelé, on est une famille. Je pense que vous qui avez une famille, vous aimez quand tout le monde participe. Il y a quelqu'un qui met de la table, quelqu'un qui prépare le repas, quelqu'un qui... Mais on est ensemble. Et je crois que nous, assemblés, nous, église, on est tous appelés à servir les uns les autres. Et se servir les uns les autres. Et c'est le souhait de Dieu pour nous ce matin. Et je crois que c'est le souhait aussi de Dieu pour votre église. C'est que votre pasteur puisse dire que tous mes fidèles se serrent les uns les autres. Et je vous dirai une chose, je crois que vous le déchargerez aussi d'une charge. Parce que c'est quand même lourd, la charge de se mettre à votre service. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire que vous partagez l'évangile aussi, c'est de me mettre à votre service. C'est de dire, Seigneur, mais qu'est-ce que ton peuple a besoin d'entendre ce matin? Et je crois que aujourd'hui, c'est une nécessité dans les temps qu'on vit qu'on puisse se servir les uns les autres. Mais parfois, on peut se dire, mais ok, je veux bien servir le Seigneur. Et souvent, automatiquement, on va dire, ah mais c'est quoi mon appel? Mais et si on oubliait juste ce côté, c'est quoi mon appel? Juste se dire, servir, c'est quoi? Vous savez que vous pouvez juste sortir de l'église à rencontrer quelqu'un et lui dire bonjour, vous l'avez servi. Vous l'avez souri, vous l'avez servi. Ça, c'est simple. Mais parfois, dans le service, on se complique. Et dans l'église, on se complique. Est-ce que votre sœur, votre frère à côté de vous, vous êtes capable de dire, mais mon frère, qu'est-ce que tu as besoin aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as besoin? Et c'est ça, servir les uns les autres. Peut-être que vous savez pas ce que votre frère ou votre sœur à côté vit. Mais le fait de s'intéresser à lui, c'est lui servir. Et c'est ce que Jésus fait. Et j'ai beaucoup aimé, au tout début de ce culte, on a parlé de Dieu a un regard vers nous. Est-ce que nous avons un regard vers notre prochain? Est-ce qu'on s'abaisse vers notre prochain? Est-ce qu'on est prêt symboliquement à laver les pieds de mon frère, de ma sœur? Parce que c'est essentiel. C'est essentiel pour ce qu'on vit aujourd'hui. Je crois que dans les temps qu'on vit, le fait de servir, on ne deviendra pas une église qui consomme, mais une église qui partage. Et on a pris cette habitude de dire, ok, j'arrive au culte, je m'assois, j'écoute, c'est bien, mais il y a plus. Est-ce que je peux être utile pour que l'œuvre avance? Est-ce que dans ce que Dieu a mis en déposé en moi, je peux le mettre au service de l'église? Peut-être que vous allez dire, oh, mais moi, j'ai rien. Je sais pas chanter. Je sais pas parler. Je sais rien faire. Mais je suis pas sûr. Parce que le Seigneur, il est capable de vous donner ce que vous avez besoin. Et je crois que si vous êtes là déjà, c'est que parce que le Seigneur savait que vous êtes capable d'apporter qui vous êtes. Le peu que ce soit. Mais apportez à la maison de Dieu le don qu'il vous a fait. Dans Galates 5, verset 13, il dit, « Oui, mes frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns les autres. » C'est important de le faire. Mon premier point, on pourrait se dire, mais pourquoi être au service les uns les autres? Je vais vous poser la question ouvertement ce matin. Pourquoi on doit se servir les uns les autres? Ok, amen. C'est vrai qu'on aurait pu s'arrêter là, mais quelqu'un d'autre peut-être? Parce que c'est... Ok. Yes, je suis d'accord. C'est vrai. J'ai beaucoup aimé une phrase de c'est Martin Luther King Jr. qui a dit ça. La question la plus persistante et la plus urgente de la vie est la suivante. Que faites-vous pour les autres? souvent, on passe notre temps à demander, mais mon besoin, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Oh, mais tu vois pas, c'est pas que je diminue votre souffrance, vos besoins. Mais si nos regards se fixaient sur le prochain, vous verrez à quel point le ciel s'ouvre pour vous. Dieu l'a dit, hein, je m'occupe de vous si vous vous occupez de mon royaume. Et si vous faites, même au plus petit, c'est à moi que vous le faites. Tout ce que vous allez faire, c'est pour Dieu que vous le faites. On pourrait dire, mais servir les uns les autres, c'est servir Dieu. Nous sommes tous serviteurs et servantes de l'Éternel. Même si vous n'êtes pas sur l'estrade, même si vous n'êtes pas en train de prêcher, vous servez le Seigneur. Parce que les besoins sont là, hein. Elles sont grandes et elles sont énormes. Mais comme ma sœur l'a dit, mais si ensemble on se met, la charge sera moins lourde. Et je pense que le royaume avancerait plus vite aussi. Vous imaginez la chance que nous avons? On peut faire grandir l'œuvre s'il y a l'unité et si nous nous mettons tous ensemble. On peut avoir un regard sur le modèle, comme qu'on a pu le voir, Jésus qui se met au niveau des disciples et qui les sert. Jésus est notre modèle, comment on doit servir. Pourquoi, mais comment on doit le servir. Dans Matthieu 20, verset 28, il dit, « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Est-ce qu'on est prêt à donner notre vie? C'est une question. Moi, je vis quelque chose là, il y a quelques temps, alors que je prêchais. Et je disais, moi, je suis pas prêt à donner mon fils pour... c'est mon premier fils. Je suis pas prêt à donner mon fils pour... c'était un cas très particulier, c'était une personne que me mettait en face, il disait, mais cette personne-là, il y a un problème qui ne va pas. Mais est-ce que tu es prêt à donner ton fils en sacrifice pour que cette personne puisse être sauvée? Et là, je lui dis, Seigneur, non. Mais je vais, en fait, et pourtant, je vais le dire en plein culte et j'explique. Non, je suis pas prêt. Je vais rentrer chez moi, le Seigneur m'a dit, Stanley, est-ce que tu es prêt à donner ton fils Elijah pour que cette personne puisse être libre de son emprise? Et là, je sais pas comment l'expliquer, mais je vais me repentir de cela. Je vais me dire, Seigneur, oui, je suis prêt. Et aujourd'hui, oui, je suis prêt oui, je le dis, j'ai donné mon fils pour que cette personne-là puisse être libre. Et je vous assure, ce qui s'est passé après m'a étonné. Cette personne a été libre. Et aujourd'hui, elle est rayonnante. Et pourtant, la vie de mon fils, il est toujours là, mon fils. Mais le Seigneur voulait voir jusqu'où je suis prêt à aller pour lui. En me demandant, mais j'avais l'impression d'être Abraham, tu sais, qui allait à l'autel. Mais Dieu n'est pas un Dieu sanguinaire, il va pas me demander d'enlever la vie de mon fils, mais c'était pour voir jusqu'où je suis prêt à aller. Et cette question, elle vous revient aussi, jusqu'où vous êtes prêt à aller pour que l'œuvre de Dieu avance? Parfois, on peut dire, oh, mais de toute façon, le pasteur, il a répondu à l'appel, c'est bon, ça suffit. Non, mais on est ensemble, on est dans la même barque. On est dans la même barque. Et nous, on est tous appelés à porter notre croix et à avancer. Et à suivre le Seigneur dans ce qu'il a fait. Et à nous donner, c'est peut-être libérer quelqu'un. C'est peut-être que, pour la personne que vous priez depuis 10 000 ans, c'est que peut-être qu'il y a quelque chose à... Qu'est-ce que vous devez faire? Parfois, se donner, c'est peut-être prier intensément et à persévérer. Ça va nous coûter. Mais pour que l'œuvre de Dieu avance. Et moi, ce qui m'a marqué quand même, le service, il y a quelque chose de très beau là-dedans, c'est que service égale aimer. Souvent on dit, Seigneur, je veux t'aimer. Seigneur, je voudrais que tu m'apprennes comment t'aimer. C'est comme si le Seigneur nous regardait ce matin. Est-ce que vous voulez me servir? C'est une expression de comment on peut partager l'amour. C'est se mettre au niveau des gens qui ont des besoins. Pour moi, servir, c'est aimer. Vous savez, dans la parole de Dieu, l'expression « les uns les autres » reviennent plusieurs fois dans les Écritures. Plusieurs fois, « les uns les autres ». Dans Jean 1, 14, verset 11, il est dit « Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Sachant que l'amour consiste dans le don, comme Dieu qui nous a aimés en donnant son Fils. » On pourrait traduire ce verset par « Nous devons nous aussi nous servir. » Donner notre vie. On a donné notre vie pour suivre le Seigneur, mais ça s'arrête pas juste au baptême, ça s'arrête pas juste, mais on est appelé à servir pour que l'œuvre de Dieu avance, pour que son royaume avance. Et vraiment, je trouve que c'est, peut-être que je le répète, mais ensemble, nous devons servir le Seigneur. Ensemble, dans l'Église, on doit apporter ce que Dieu nous a donné. Parfois, souvent, je ne sais pas si ça se passe comme ça chez vous, mais il y a quelque chose que j'aime pas trop, moi, personnellement, c'est quand il y a une liste de services, on cherche pour tel service, on cherche pour tel service. Je me dis, mais des fois, on peut être 200 dans l'Église, mais c'est toujours les mêmes qui font les mêmes choses. Mais je me dis, mais quand même, vous imaginez dans une famille nombreuse où c'est que le papa et la maman qui servent. Mais je me dis, mais moi, avec mes enfants, j'aimerais aussi les inculquer à servir aussi. Ça peut être petite chose, ça peut être juste quelque chose de très simple. Mais nous devons apprendre à apporter, à servir. Et c'est vrai, parfois on a besoin d'apprendre. Je me souviens quand j'étais petit, ma mère, elle disait un jour, mais quand elle avait un rêve pour ses fils, c'est que qu'on soit marié, qu'on soit capable, ou du moins, si on n'est pas marié ou on se retrouve tout seul, qu'on est capable de repasser une chemise. C'était son rêve. Du coup, ma mère, elle m'a appris à repasser mes chemises. Et je me souviens quand elle m'a offert, vous savez, les petits fers de voyage, qui sont tout petits. Elle a commencé par me donner une chaussette et c'était pas des caleçons, c'était des slips à repasser. Mais du coup, j'apprenais parce que quand même, c'est difficile de repasser une chemise et un pantalon quand même. Quand on est petit, c'est difficile. Mais au fil du temps, plus je grandissais, plus elle m'apprenait, plus elle m'apprenait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis capable de repasser ma chemise. Mais je pense que pour tout le bonheur de ma femme, parce que je suis pas dépendant. Mais tout ça pour dire, c'est que on a besoin d'apprendre afin qu'au moment qu'on puisse servir. Servir aussi, c'est nous aider, nous soulager, nous décompliquer la vie. Parfois, on a des frères et sœurs dans l'Église qui passent par des moments très difficiles. Peut-être qu'il a besoin juste un conseil de quelqu'un. Il n'a pas tout le temps besoin de dire « Pasteur, j'ai besoin d'avoir un entretien avec toi. » Mais on a l'Esprit de Dieu en nous aussi. Hein. C'est pas dire qu'il faut prendre la place du pasteur. Mais on est capable d'apporter une parole d'encouragement. On est capable d'ouvrir la parole de Dieu et de dire « Mais voici ce que dit la parole. Dans la situation que tu traverses, mais je peux t'apporter un encouragement. » Déjà, ça enlève un poids au pasteur. Mais pensez que, vous imaginez, Jésus-Christ est mort pour nous, afin que nous ayons cette vie-là. L'Esprit de Dieu, souvent on le répète, l'Esprit de Dieu est en nous, mais il faut qu'on vive le tout accompli là. Le tout accompli de Dieu, il faut qu'on la vive. On peut pas s'arrêter juste à une vie chrétienne du dimanche. On est là juste entre 10h et midi. Et encore, on pense peut-être au repas. Mais non. Sachant qu'on est venu pour rendre gloire, on est venu pour se servir les uns les autres. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je pourrais faire pour que mon église avance? Qu'est-ce que je pourrais faire pour que mon église puisse grandir? Qu'est-ce que je pourrais faire pour que mon église s'embellisse? Peut-être que dans l'église, il y a quelqu'un d'entre vous, ah, vous savez faire une chose, vous savez faire à manger, mais parfaitement. Et vous vous dites, oh, pasteur, mais ce serait bien, j'aimerais bien organiser une agape. Je m'en occupe. Et le pasteur sera content. Et je viendrai aussi. Mais c'est important, on a tous quelque chose. Peut-être que vous avez des dons, je sais pas, d'écoute. Que vous avez des dons pour quelqu'un que, je sais pas, quelqu'un qui cherche du travail, ou quelqu'un qui a besoin, peut-être que vous dites, ah, mais moi j'aime bien conduire, peut-être que je peux vous reconduire à quelque part, mais j'en sais rien. Il y a tellement de multitudes de choses à faire. Mais, vous savez, en se servant comme ça, la communion fraternelle, elle grandit. L'église est grandie. Et on n'est pas seul. Dans ce service-là, l'unité va se construire. Et les brèches vont se fermer. Et quand un frère ou une sœur va passer par un moment difficile, il dit, ah oui, je sais qu'il y a une sœur, il y a un frère qui est là. Ça veut pas dire qu'on devient copain-copain, là, et on fait les soirées tous ensemble, là. Non, c'est pas ça. C'est que je peux compter sur mon frère ou ma sœur. Je sais qu'un frère ou le frère à côté de moi, il va prier pour moi. Il va m'apporter un conseil. Il est là pour m'écouter et je me sens pas seul. Et souvent, on peut arriver à l'église, mais on se sent plus seul que quand on est dehors. On arrive, on passe incognito. Personne nous connaît. Personne s'intéresse à nous. Ok. Et pourtant, on vit notre vie chrétienne, on est là, on dit Seigneur, mais je t'aime, mais moi je me sens seul. Mais ça peut pas continuer comme ça. Parce que c'est pas ça que Dieu veut qu'on vive. Il faut, je crois que Dieu nous appelle à aller plus loin. Il faut qu'on déploie nos talents, nos capacités, qui vient pas de nous, hein, qui vient de Dieu lui-même. Vous imaginez tous les dons et des talents. Vous imaginez si je vous, imaginez, juste, je vous prends un exemple. Imaginez-vous votre voiture, vous êtes venu en voiture, votre voiture vous dit, ce matin, je vous sers pas, je vous amène pas à l'église. Vous imaginez, ah, c'est énervant, hein. Mais nous aussi, on doit nous rendre au service des uns des autres. Pour que on puisse aller là où on doit aller. Où est-ce qu'on doit aller? On va tous le rejoindre. Mais c'est en se servant, du coup, ensemble, on se tient par la main et on se dit, mais on se fortifie parce que dans la mare, c'est difficile. Vous savez que la tradition par rapport au lavement des pieds, c'est que les disciples, ils faisaient plein de routes. Ils se salissaient les pieds. Et du coup, c'est un besoin de se laver les pieds. Mais aujourd'hui, on a besoin de se laver les pieds parce que nous aussi, on est en marche. Nous aussi, on est sur un chemin. Vous savez qu'aujourd'hui, se laver les pieds, c'est peut-être juste s'asseoir à côté de votre voisin et lui dire, Dieu t'aime. Je suis là pour toi. Et en fait, vous êtes en train de lui laver les pieds symboliquement. Et il peut repartir sur le chemin. Il peut se fortifier et dire, je continue. Je persévérerai jusqu'à la fin. Est-ce que vous imaginez, vous arrivez auprès du Seigneur et que vous regardez, vous dites, oh, le frère ou la sœur là, qui aimait le Seigneur, mais il est pas là. Et le Seigneur vous regarde, il vous met en image. Vous savez, à ce moment-là, il avait besoin de toi. Tu l'as pas fait. Oh, c'est horrible. Moi, le verset qui me fait plus peur aujourd'hui, c'est ce verset qui dit, au moment où Jésus, à son retour, il dit, je vous ai jamais connu. Oh, mais moi, c'est horrible. Je vous ai jamais connu. Mais parce qu'en fait, on n'a pas été en intimité tellement profonde pour nous donner entièrement aux autres. On n'est pas appelé à vivre une vie égoïste. C'est fort à dire, mais on est appelé à vivre une vie où on se donne. On pense, et c'est vrai, je trouve aujourd'hui, moi quand je suis arrivé en France, je trouve que c'est très culturel. On est très chacun sa petite maison, chacun son truc, chacun sa voiture. Mais moi, ça me gênait. Je me dis, mais quand même. Quand même, mais partageons, vivons ensemble. Est-ce que vous, parfois on se dit, mais on s'intéresse à quelqu'un de l'église, peut-être que il a pas de quoi manger. Peut-être que ça se voit pas, hein. Mais il se dit, moi, je préfère aller voir quelqu'un qui ne peut pas me juger que dans l'église lui-même. Mais c'est dommage. Alors que la maison de Dieu, c'est la maison où il y a l'abondance. C'est la maison où, s'il y a un besoin, Dieu répond. Je suis nu. Dieu répond. Mais c'est pas Dieu qui descend pour répondre. Il se sert de nous pour répondre aux besoins. Parfois, on va dire, Seigneur, tu vois la sœur, il a ce besoin-là, je te prie que tu pourvoies. Et le Seigneur te répond, d'accord. Tu vois ce que t'as là, tu peux lui donner? Ah non, mais Seigneur, mais c'est à moi. Ah, c'est à toi. Tu te souviens quand t'as prié que t'avais besoin, je te l'ai donné. Maintenant, je te le donne. Et je crois qu'aujourd'hui, on est appelé à donner parfois ce que Dieu nous a donné. Il nous a donné pour les autres. Donnons ce que Dieu nous a donné. J'ai envie de vous dire, soyez des fontaines, mais pas des vasques. Soyez des fontaines. Que ça jaillisse de vous. Vraiment. Parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Et on est appelé à marcher ensemble. Le problème de l'Église, est-il que Dieu a trop de choses à faire pour s'occuper de nous? Ou que les hommes chargés de nous bénir de sa part sont trop égoïstes et occupés, chacun, à gérer leur propre intérêt? Regardons à l'intérêt des autres avant de regarder à notre intérêt. Si nous sommes dans la maison de Dieu, nous avons la certitude, c'est la parole qui le dit, hein, que Dieu pourvoit à nos besoins. En fait, on n'a pas à s'inquiéter. Dieu pourvoit. Et il nous dit, pourvoit aux besoins des autres. C'est la parole qui le dit. Philippiens 2:4, il nous dit, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est important. Mon deuxième point, c'est, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous sommes, moi, c'est un verset que j'aimais avant d'avoir des enfants. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je disais, quand j'aurai ma maison, je le mettrai en grand, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais c'est marrant parce que le Seigneur va me dire, mais ok, c'est bien. Mais c'est pas ta petite maison, là, tu sais, avec ta femme, tes enfants. On aime bien ça. Mais on sert ensemble, on est bien ensemble. Non mais, il y a plus. Et ici, on est dans la maison du Seigneur. Ensemble, on peut proclamer, on veut dire, moi et ma maison n'y serviront l'Éternel. Moi et ma maison, je mettrai ce que Dieu a mis en moi au service de mon Église. On n'est pas là pour être des figurants. Peut-être c'est fort, hein. Mais on est appelé à des acteurs vivants. Qu'on ait l'âge de l'adolescence, peut-être jusqu'à un âge très avancé. Tant que vous n'êtes pas dans la tombe, il y a encore espoir. Il y a encore espoir pour servir l'œuvre de l'Éternel. Vous savez, parfois, servir le Seigneur, peut-être que peut-être qu'il y a des gens, peut-être qu'ils peuvent pas aller à l'église, ils sont d'un âge avancé, ils disent, mais moi j'ai tout fait, je suis âgé, je peux rien faire. Vous savez, prier, prier aussi, c'est servir le Seigneur. C'est servir l'œuvre que Dieu fait, veut faire dans l'église. Je me souviens de quelque chose qui m'a marqué alors que je passais par un moment difficile dans ce que j'ai partagé où je luttais avec cette identité-là. Un jour, il y a une mamie, elle était chez elle, alors que elle venait de me rencontrer il y a quelques semaines avant. Pendant qu'elle priait, le Seigneur va dire, tu vas prendre 3 jours de jeûne pour prier pour Stanley. Mais sauf que, elle dit, mais, ok, mais, je le connais pas. Je sais pas ce qu'il vit. Est-ce que je dois lui demander, Seigneur, mais pourquoi je dois prier? Seigneur, non, non. Tu vas juste jeûner, prier pour lui. Elle va obéir et va prier. À ce moment-là, je passais par un moment très, 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 très difficile où je crois qu'il y a un basculement dans ma vie. Je crois qu'à ce moment-là, je crois pas que je serais marié aujourd'hui. À ce moment-là, j'étais tellement fatigué, je dis, Seigneur, ok, je veux te servir, c'est trop dur, je préfère juste choisir cette voie-là où je serai dans le monde où je peux faire ce que je veux avec mon identité déformée. Je pense que là, je peux quand même le dire, mais ce jour-là, je vais faire quelque chose de pas très très beau, mais je vais décider de me dire, ce jour-là, je vais me prendre un hôtel et je vais coucher avec le premier venu. Le premier venu, pas la première, le premier venu. Mais ce qui s'est passé, c'est que... Et pourtant, j'ai pris l'hôtel, c'était prévu, mais je ne pouvais pas rentrer dans l'hôtel. Je ne pouvais pas. Et je ne savais pas pourquoi. Mais quand la mamie, elle va me dire qu'elle a prié, et elle va me dire la date exactement où elle priait. En fait, elle est en train d'intercéder afin que moi, je puisse tenir ferme jusqu'au bout. Et là, je me dis, mais waouh, mais quelle gloire! Quelle gloire! Alors que j'aurais pu, mais là, elle a servi l'œuvre du Seigneur. Je suis aujourd'hui, si je suis devant vous, c'est que c'est quelqu'un a prié afin que je puisse tenir ferme. Et parfois, peut-être qu'on a besoin que quelqu'un prie pour nous. Parfois, on peut dire, oui, mais on est chrétien, mais on ne sait pas ce qui nous attend demain. Hein. Moi, c'est ma lutte, mais moi, je ne sais pas c'est quoi vos luttes aujourd'hui. Peut-être que ça n'a pas rapport avec ce que j'ai vécu, mais on a tous nos luttes et nos combats. Mais ensemble, on va se surporter, on va se porter afin qu'on puisse être, de se dire, mais ok, on y va ensemble. On est sur le même chemin, difficile, caillouteux. Mais aujourd'hui, mais moi, je loue le Seigneur, mais peut-être que pour les gens, mais moi, j'ai l'impression d'avoir été mort et je suis ressuscité et que aujourd'hui, je peux jouir des promesses. D'avoir une famille, de jouir de ce qu'est le mariage, mais ça fait 2 ans que je suis marié, mais vraiment, on se dit souvent, mais c'est une lune de miel à chaque instant. Mais vraiment, je crois que, moi, je crois que j'ai jamais aimé, au-delà de Dieu, mais j'ai jamais aimé quelqu'un comme ça. Et de voir comment l'amour se multiplie avec les enfants, et même pouvoir le servir, servir son royaume. Et aujourd'hui, je prends un plaisir à partager l'évangile. Et alors que moi, j'aimais cuisiner, mais aujourd'hui, j'aime passer du temps à concocter une parole et me dire, et je vais vous servir un repas. Le repas, ce repas éternel. Et que quand vous le dégustez, là, que ça vous fait du bien à votre corps, à votre âme, à votre esprit, et que ça vous encourage. Mais il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Personne d'autre. Et c'est pour ça qu'on peut espérer qu'en Dieu seul. Parce qu'il est la source de la vie. 1 Corinthiens 12, verset 7, il dit, « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'unité commune. » Dieu veut vous donner à chacun d'entre vous ce qu'il faut pour servir l'œuvre. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve en Égypte et servez l'Éternel. Josué 24, verset 14 à 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servez vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous sommes une famille. Nous sommes la famille de Dieu. L'église que Dieu lui-même s'est bâtie. C'est pas nous, hein. Et nous sommes les pierres vivantes. Et ensemble, on veut le servir. Et nous voulons manifester l'amour de Christ à travers le service. Mon troisième point avant de terminer, quel est mon espace pour servir? Parfois, on est là dans l'église, mais à quoi je peux servir? Mais peut-être qu'on peut se poser la question, tout simple, comment je peux aider? On pourrait dire là simplement à quelqu'un, mais on peut aller voir quelqu'un, je sais pas. Comment je peux t'aider, ma sœur? Comment je peux t'aider, mon frère? Je sais pas quoi faire. Mais peut-être que, et peut-être en discutant, on va dire, ah, mais je passe par un moment difficile, mais tu peux prier pour moi. Ou peut-être que il sera tellement confiant de dire, mais en ce moment-là, c'est très difficile, financièrement, j'arrive pas. Peut-être que, je sais pas, peut-être que vous pouvez l'aider. Peut-être que si vous avez pas grand chose, de dire, j'ai pas grand chose, mais je t'encourage. Mais on est là à s'encourager les uns les autres. Il existe une multitude de petites choses ou de grandes choses qu'on pourrait faire pour aider, exprimer l'amour de Christ envers notre prochain. Mais que vraiment aujourd'hui qu'on puisse comprendre l'importance de servir le Seigneur. Ce n'est pas réservé à une élite, ce n'est pas réservé à aujourd'hui, dans notre génération, on passe notre temps à nous casser la tête. C'est quoi mon appel? À quoi je peux être servi? À quoi je peux? Non mais, on a tout ce qu'il faut. Là où nous sommes, avec le peu que nous sommes, mais on peut servir le Seigneur. Que nous puissions être des instruments que Dieu va utiliser pour son œuvre. Moi, l'instrument qui c'est peut-être la prédication, peut-être que c'est votre voix, peut-être que c'est vos talents manuels. Peut-être que, je sais pas, il y a des gens, ils connaissent la mécanique, plein de choses. Mais mettons cela au service de l'Église. Et c'est ce que Dieu veut que nous fassions aujourd'hui. Et c'est ce que Dieu veut pour votre Église. Que vous puissiez être des serviteurs et des servants de l'Éternel. Que vous puissiez dire que tu sois ado, que tu sois plus âgé. Je suis serviteur et je suis servant de l'Éternel. Je vais finir juste par un témoignage qui m'a beaucoup marqué un jour. J'allais à l'église. Je rencontre une dame, elle boitait et moi je me suis dit OK, elle a l'air assez bizarre et elle m'arrête et tout, il me dit monsieur, est-ce que vous pouvez m'aider? Du coup oui, OK, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voudriez une petite pièce et tout? Et là je lui dis cette phrase, mais vraiment. Je dis, mais j'ai pas le temps, il faut que j'aille à l'église. Et du coup, moi, je marche et tout, je cours et tout, j'ai à l'église et tout, tout pressé et tout, je rentre à l'église. En plus, je vois que j'avais une petite pièce dans ma poche. Okay. Je m'assois. Le culte commence, je loue le Seigneur et j'étais là dans la présence. Seigneur, tu es bon. Nanana. Et là, d'un coup, je vois quelqu'un entrer. C'est la dame. Mais sauf que elle décide pas de s'asseoir derrière. Elle décide de s'asseoir tout devant. Oh! Et je me dis, ah, mais c'est la dame que j'ai vue tout à l'heure. OK? Le service d'offrande arrive. Et là, elle se lève, tout boitant, elle va déposer sa petite pièce. Oh! Et là, je me mets à pleurer, mais d'une manière, mais oh, je dis, Seigneur, Seigneur. En fait, elle m'avait demandé une petite pièce pour aller donner au Seigneur. Et moi, je disais, je vais à l'église. Souvent, on dit ça, je vais à l'église. Mais nous sommes l'église. Mais allez vers les gens. Répondez à leurs besoins. Soyons à leur service. Alors que je crois que j'aurais pu être devant en train de louer ou en train de prêcher. Et cette dame, là, et pourtant, je dis, Seigneur, je te sers. Hein. Mais soyons fidèles dans les petites choses. C'est important de discerner le besoin que Dieu met devant nous. Parce que il faudrait pas qu'un jour on arrive devant le Seigneur en disant je ne te connais pas parce que tu m'as pas servi, tu as servi tes propres intérêts. On n'a pas envie d'entendre ça. Mais je prie que ce matin que l'Esprit du Seigneur illumine les yeux de vos cœurs. Qu'il vous met devant vous les besoins Il y a tellement de besoins dans ce monde. Il y a tellement de besoins dans toutes les sphères que Dieu met devant vous. Que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit dans l'église. Servons les uns les autres. Dieu vous aime, mais aimons-vous les uns les autres. S'il y a l'amour que vous aurez pour les uns que les autres, que les autres verront que vous êtes disciples de Christ. Alors, aimons-les. J'ai envie de vous dire, aimons-les vivants. C'est important. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Amen.